c'est parce qu'il y avait des négationnistes que j'ai commencé à témoigner. Parce que ça, c'est impossible d'admettre qu'il y ait des négationnistes, des gens qui refusent de croire. Ça, pour un ancien déporté, il n'y en a malheureusement plus possible, des anciens déportés, mais pour un ancien déporté, c'est inadmissible de ne pas croire ce qu'on dit. Voilà.
Nous reprenons le récit de Simone Polak, rescapée de la Shoah, qui est venue témoigner devant les jeunes de l'Union des étudiants juifs de France, section Strasbourg. Dans l'épisode 1, nous la laissions à la gare de Bobigny, juste avant sa montée dans le train, direction le camp d'extermination d'Auschwitz.
Et nous étions en face de la gare de Bobigny. Et en contrebas de ce quai, il y avait un train qui s'était formé, un train de 20 wagons. Et il y avait des ouvriers qui étaient en train de décharger des bottes de paille qu'ils mettaient dans ces wagons. Si vous aviez vu, personne ne parlait plus. Les visages étaient fermés. Si vous aviez vu cette prise de conscience, c'était terrible. On venait de se rendre compte que nous allions prendre des wagons à bestiaux pour aller, comme on disait dans le temps, à Pitchipot, c'est-à-dire un lieu qu'on ne connaissait pas, un lieu, on ne savait rien de tout ça. Mais à notre gauche, il y avait trois brancards qui étaient alignés. Ces brancards, c'était des personnes qui étaient couchées là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler... Serge Klarsfeld, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup occupé des déportés. Beate, c'était sa femme d'origine allemande, ça vous le savez peut-être aussi. C'est un couple qui a beaucoup fait pour la déportation, qui a écrit des livres, qui a surtout écrit un livre. C'était le premier d'abord en relatant les identités, les noms, les personnes et les identités de tous les déportés. Et dans ce livre de Serge Klarsfeld, il était mentionné que notre convoi, donc du 20 mai 1944, il y avait 1197 personnes dont les identités sont connues et 3 personnes dont les identités ne sont pas connues. Je suppose, puisque ça je l'ai vu, une personne qui est tombée devant moi, je suppose que les 3 personnes ont eu des malaises, qu'on n'a même pas cherché qui c'était, qu'on n'a même pas cherché à soigner, telles qu'elles étaient, puisque c'était prévu 1200 personnes qui devaient partir, comme elles étaient, telles qu'elles étaient, on les a embarquées pour Auschwitz. Le train s'est ébranlé, nous étions donc à 60, c'était une demi-obscurité qui régnait dans ces wagons. Au dernier moment, on a monté une tinette dans le wagon, avec une couverture, c'est là que nous devions faire nos besoins. La Croix-Rouge nous avait donné un paquet qui devait tenir pour 3 jours. Et au tout dernier moment, c'est un militaire allemand armé jusqu'aux dents qui montait dans le train. Notre convoi n'a pas eu ce déroulement. Nous étions dans notre wagon. Les premières personnes qui ont vraiment failli, les premières personnes qui n'ont pas supporté l'enfermement, c'était 2 messieurs âgés. Le mari de cette personne qui est tombée devant moi et l'autre personne, ils avaient tous les deux dans les 70 ans, et l'autre personne, quand il a été arrêté, sa femme était couchée, était à la maison, était malade. Elle a dit « Moi, je ne peux pas me lever. Vous faites de moi ce que vous voulez, mais moi, je ne peux pas me lever. » Et c'est cet homme qui a aussi failli. L'enfant de 18 mois était vraiment exemplaire. Moi, j'étais avec maman dans le train, avec mon frère. Il y avait à côté de moi 2 sœurs et puis un jeune. Comme je vous ai dit, on s'arrêtait souvent, mais on est parti aussi. On est parti. Et nous étions 3 nuits. Donc, le matin du 4e jour, nous sommes arrivés. On a attendu très longtemps avant qu'on ouvre la porte. Mais au loin, on entendait qu'on ouvrait les portes. Ça fait un bruit terrible et enfin, on a ouvert la nôtre. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les personnes, les hommes en pyjama, c'était des prisonniers qui étaient habillés d'oreiller. Et c'est eux qui ouvraient la porte et c'est eux qui nous disaient de sortir en laissant tout, tout laisser. Toutes les personnes qui avaient un enfant sur les bras ou à leur côté, c'était des personnes qui étaient condamnées. Il faut s'imaginer, on sort du train, il y a un immense quai, 197 personnes qui sont sur ce quai, assises. Ce sont des personnes qui ne sont pas les plus valides. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit, celles qui ne peuvent pas marcher peuvent rester assises sur le quai, peuvent attendre le camion qui viendra les chercher. Effectivement, nous avancions, mais de temps en temps, il y avait des personnes, des capots, on appelle ça des capots, qui venaient avec de longues triques, de longs bâtons, et qui donnaient des coups pour effectivement laisser passer les autres. Mais on n'a pas eu le temps de beaucoup se poser des questions. Pourquoi ? Parce qu'il fallait avancer. Et nous avancions, nous sommes sortis de notre wagon, nous avancions, j'étais d'un côté... de maman, j'ai oublié de vous dire que dans le train, maman, c'était le dernier jour, m'a fait ses recommandations. C'est-à-dire, j'étais grande, j'étais forte. Je n'avais que 15 ans et maman m'a dit, tu sais, tu es maintenant grande, tu sais, on risque d'être séparés. N'oublie pas, n'oublie jamais, agis comme si j'étais toujours à tes côtés. C'était pratiquement, on aurait dit que c'était prémonitoire, c'était quelque chose qu'elle sentait et qu'elle m'a effectivement passé. C'était un message qui me reste encore aujourd'hui, bien sûr, puisque j'ai écrit un livre qui a ce titre-là. Et puis, nous nous acheminons, on était là, il y avait un couloir de chaque côté des personnes qui étaient assises, il y avait des vieillards, il y avait des personnes assises, il y avait des mamans avec des enfants, et nous avancions et tout d'un coup, nous arrivons devant deux SS. Et les deux SS, ils nous séparent. Maman et mon frère vont d'un côté et moi, ils me disent d'aller à gauche. Maman dit, et c'est ma fille, et ils disent, ah, it's right, en deux jours, vous vous reverrez. J'ai avancé, j'ai continué d'avancer et je me suis retrouvée avec un groupe de 150, 160 personnes, des femmes. Et de l'autre côté, il y avait autant d'hommes. Et les personnes, soit elles s'acheminaient à droite, et c'était la douche mortelle, soit les personnes qui sont restées sur le quai, elles ont été acheminées également vers la douche mortelle. De ce convoi de 1200 personnes, pratiquement, on peut dire environ 300 personnes, ont été choisies pour le travail. On nous a dit de nous aligner par 5, mais nous, on n'a jamais été militaires, rien du tout, c'était un petit peu la cohue. Et puis il y avait la blockälteste, c'est-à-dire la responsable du bloc. Elle a dit, sale juif, je vous materai, vous verrez. La journée était déjà très avancée quand nous avons passé de l'autre côté, c'est-à-dire que partout autour du camp, les fils de fer étaient électrifiés. Et à partir d'un certain moment, nous sommes arrivés dans un grand hall. Dans ce grand hall, on nous a dit de nous déshabiller. Nous étions en 1944. On ne se dénudait pas comme on se dénude aujourd'hui. On nous a dit, mais déshabillez-vous, ce qui veut dire entièrement nu. On s'est déshabillé, on voyait déjà des personnes qui fouillaient dans nos affaires. Et il y a des queues qui se faisaient. Ces queues, c'était des personnes qui nous tatouaient. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On nous tatoue. Et d'autres, plusieurs queues, qui nous tondaient en très peu de temps. Et après, nous étions à côté sur des gradins, nus, assis sur des gradins, tatoués et tondus. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de la chance d'avoir une paire de chaussures, une paire. Il y en a d'autres qui n'ont même pas eu le temps de se choisir une paire de chaussures. Mais nous sommes restés là très longtemps. Quand nous sommes repartis de ce lieu, et cette personne nous a emmenés dans un lieu, c'est-à-dire c'était des baraquements de 700 à 800 personnes. C'est-à-dire qu'il y avait des lits à chalets, 3 étages, et il fallait s'installer dans ces lits. À 10, nous avions 2 couvertures pour les personnes. 2 heures après, on nous a réveillés, Bettenmachen, on a commencé à sortir. On nous a d'abord emmené au Waschraum. Le Waschraum, qu'est-ce que c'était? Il fallait d'abord emmener les seaux on n'avait pas le droit, la nuit, de sortir du baraquement. À certaines personnes, on leur disait, voilà, il faut prendre un seau. Et on était acheminés sur le vacherum. Qu'est-ce que c'était le vacherum ? C'était un grand bac. Et au-dessus du bac, il y avait une tuyauterie qui était trouée et c'est de l'eau qui sortait. Il ne fallait en aucun cas la boire. Les personnes qui ont dérogé à cette interrogation le payaient de leur mort. Et de là, on allait directement pour l'appel du matin. Et tout devait être exact, c'est-à-dire qu'on était compté, mais nous, on était au lager de quarantaine, c'est-à-dire le lager A. Aussi longtemps qu'il manquait une personne, on ne pouvait pas terminer l'appel. Et l'appel du matin était plus court que l'appel du soir. Parce que l'appel du soir, c'était interminable après une journée de travail. Et c'est après l'appel qu'il y a des personnes qui étaient là avec des gourdins et qui ont emmené les personnes. C'est-à-dire qu'il y avait un tas de pioches, un tas de pelles. Et chacun devait prendre une pioche, une pelle pour aller piocher, pour aller travailler, je ne sais où. Le matin, on a eu, c'était une décoction de feuilles marron. Et chacun devait laper à son tour une gorgée de cette décoction. Après 4 jours où on n'a pas eu à boire, où on n'a pas mangé convenablement, certains ont pu boire et d'autres pas. Comme il n'y avait pas suffisamment de pioches ou de pelles, on nous a emmenés à un endroit où il y avait des pierres. Et chacune devait prendre une pierre, pas trop petite, parce que si elle était trop petite, on nous la jetait par terre et on nous en choisissait une assez grande. Et ces pierres, on devait les porter à un endroit. C'était pour nous occuper, il ne fallait pas de personne au camp. Il est arrivé tellement de convois de l'Est, c'est-à-dire on a vidé les ghettos. Il y a des gens qui sont arrivés, les trains qui arrivaient. Et au travers du hublot central, on a vu des gens émaciés, maigres. On ne peut même plus dire qu'ils étaient maigres, ils étaient cadavériques. Et je pense qu'ils pouvaient absorber beaucoup dans ces cabines de douche et dans les fours crématoires. Mais il y avait une priorité et c'était eux. Normalement, nous étions appelés à travailler, voilà, à piocher sous la contrainte, parce que quand ça n'allait pas assez vite, il y avait une capot derrière nous qui nous obligeait à porter les pierres et nous obligeait aussi à travailler. Le premier repas s'est passé de la façon suivante, c'est-à-dire nous devions faire la queue. Il y avait plusieurs cubelles devant nous, des cubes de grandes cuves de 50 litres. Et il y avait quelqu'un qui sortait 5 fois une mesure. Et nous devions laper cette soupe également à tour de rôle. Cette soupe, auparavant, on avait essayé déjà de nous voler. On n'avait pas essayé, on nous a volé d'avance. C'est-à-dire que ce qui était épais au fond, les responsables de bloc s'étaient servis. Et le soir, nous avions un appel très long. Et il fallait attendre que tout le camp soit compté. Et après seulement, on nous distribuait le pain. Le dimanche, on ne travaillait pas, c'était un seul appel, mais c'était le moment de la Entlassung, c'est l'épouillage. C'est là que nous allions au sauna, on avait la douche, et c'est là qu'on nous regardait, vous deviez regarder si vous aviez des lentes, des poux, pourquoi pas. Toujours pour les mêmes raisons, les Allemands avaient peur du typhus, ils avaient peur des poux, ils avaient peur vraiment de tout ça. Dans les rangs, quand on avait cette douche, il y avait certains Allemands qui passaient. Si les personnes étaient trop maigres, ne convenaient pas, on sortait la personne du rang, on prenait son numéro et on la tirait de là. Et on ne la revoyait plus. J'étais choisie pour l'Außenkommando. Il fallait marcher 4, 5, 6 kilomètres du camp. Et il y avait de chaque côté soit les militaires allemands, soit les chiens qui nous surveillaient. Et on marchait, on arrivait sur les lieux. Il y avait des pelles et des pioches. Vous pensez bien qu'entre-temps, on était arrivés en juin, juillet, août, etc. Et nous avions des cloques. Et comme nous devions faire les cantonniers, eh bien très vite, ces cloques se sont infectées. Il y avait un revire, c'est-à-dire hôpital. Cet hôpital, il fallait avoir une température élevée pour être admis. Moi, j'étais admise, pourquoi ? Mon amie Sarah également. Pourquoi ? Parce que nous avions les mollets infectés. Dans ce revire, il y avait aussi des lits. Vous étiez des lits, toujours les mêmes lits, à une personne. Mais vous étiez à deux. Quand vous aviez de la chance, vous tombiez sur une personne qui avait la même pathologie que vous. Mais si vous n'aviez pas de chance, vous aviez quelqu'un qui avait une autre pathologie, mais que vous deviez accepter. Et pendant mon séjour, qui était pourtant très court, il y a eu deux sélections. Deux sélections, ça veut dire que les Allemands en uniforme, les Allemands vraiment, les officiers venaient et au petit bonheur de la chance, choisissaient, désignaient les personnes qui devaient être emmenées. C'était des scènes terribles. On relevait les numéros, voilà. La personne savait très bien pourquoi elle était désignée. On la tirait de son lit comme on pouvait et elles étaient sur un camion et on l'emmenait on sait où. On soignait les plaies. Il y avait de la pommade jaune ou de la pommade marron. Et les bandes, la bande, c'était comme du papier hygiénique, mais qui s'étirait. On essayait de ne pas trop prolonger notre séjour. Le plus tôt était le mieux de sortir de là, parce qu'on risquait une sélection. Quand on est sorti de là, on nous a remis au travail. Je voudrais répondre à la personne qui m'a dit à quel moment on s'est rendu compte. Voilà. Quand on était en quarantaine, au bout de quelques jours, on s'était rendu compte que, ben voilà, on n'avait pas notre famille qui venait, on ne les voyait pas. À côté de notre bloc 31, il y avait un bloc un peu à part, c'est-à-dire que c'était des femmes qui avaient leurs enfants à leur côté, elles étaient en robe rayée et elles faisaient à manger, entre deux pierres, elles faisaient à manger. C'était des Polonaises qui étaient là, non-juives, qui étaient là pour un délit. Mais il y a des personnes qui parlaient le polonais et elles ont commencé à demander, à se renseigner, à savoir un petit peu ce qui se passe dans ce camp. Pour toute réponse, on leur a montré, il y avait dans le camp, pas très loin du Lager A, au Lager B, on leur a montré une grande cheminée. Quand on a demandé, mais où est notre famille, on leur a montré la cheminée. Et petit à petit, il y avait une odeur. La nuit, le camp était illuminé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des flammes énormes qui sortaient de cette cheminée. Il y avait une odeur, je peux vous dire, excusez-moi, une odeur d'os et de chair brûlée en permanence dans le camp. Et c'est petit à petit que nous avons pris conscience de ça. Mais il n'était pas possible de s'arrêter à cela, parce que nos conditions étaient tellement difficiles qu'on ne pouvait pas s'arrêter pour savoir ce qu'il était advenu des nôtres. Il fallait, quand on vous demandait de faire un travail, il fallait l'exécuter. Quand on vous demandait de se lever, il fallait se lever. Quoi qu'on vous demandait, quelle que soit la tâche, il fallait être à la hauteur. Et on n'avait aucune autre possibilité que de s'exécuter. C'est ça, et c'est ce que je voulais dire, et se relever. La pensée était tout à fait annihilée. Nous n'avions plus aucune possibilité. Nous ne nous appartenions plus. Nous avions une route à faire, 4, 5, 6 kilomètres. Ces militaires étaient là pour nous surveiller. Nous surveiller si nous travaillions correctement, si nous travaillions effectivement. Moi, j'avais une pioche. Cette pioche, c'est quelque chose de très lourd et très lourd à manier. Et il m'avait à l'œil, ce militaire qui était dans ma trajectoire. C'était un peu un sadique parce que tous les jours, il avait une ou plusieurs victimes qu'il maltraitait. Et c'est ainsi, ce jour-là, moi, j'ai été maltraitée. Il m'a battu très fort. Je sens encore aujourd'hui la semelle de sa botte sur ma joue. Ce jour-là, cet homme m'a rendu infirme pour la vie. C'est-à-dire, quand je suis rentrée, je ne savais pas ce que j'avais. Enfin, je vous dis grosso modo, j'ai fait une tuberculose osseuse et à la suite de cette tuberculose osseuse, bon, il y a les séquelles, etc. J'en souffre encore aujourd'hui, voilà, pour vous dire. J'étais affectée au Kartoffel Kommando. C'était des wagons de pommes de terre qui étaient arrivés et qu'il fallait porter dans les silos. Et il fallait faire remplir, il fallait tenir. J'ai tenu, mais un beau jour, fin octobre 1944, on a fait un appel beaucoup plus long que les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a amenés à la douche. le soir à la douche, on allait. Après, comme on ramenait tout le monde, on nous a amenés dans notre bloc, mais il n'y avait plus moyen de se coucher. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient assemblés là. Le matin, on avait l'appel devant, mais on n'allait pas travailler. Et on nous a dit de nous aligner. Nous avons commencé à prendre un chemin qui nous amenait vers les rails, vers le quai. C'était 2300 personnes, fin octobre 1944, qui ont quitté Auschwitz. Nous sommes entrés dans les trains, des wagons à bestiaux. Il n'y avait même plus de paille par terre. Nous sommes assis, nous avons attendu. Et finalement, le train a démarré. Est-ce que je peux vous dire qu'on riait, on pleurait, on chantait? Jamais on pensait pouvoir quitter ces lieux vivants. Et c'est comme ça qu'on est parti. On est parti de là en train. Nous avons mis 3 jours pour arriver dans un lieu qui s'appelle Bergen-Belsen.
Nous quittons Simone Pollack dans le train en direction du camp de Bergen-Belsen. Un récit qui fera l'objet d'un 3e épisode.